Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Présence pour cet entretien avec l'un des artistes invités au Festival de Rocamadour 2025. C'est le violoncelliste Victor-Julien Laferrière qui se prête au jeu aujourd'hui. Il est le fondateur et directeur artistique de l'orchestre Consuelo qu'il va conduire deux soirées de suite dans la vallée de l'Alzou, à chaque fois à 20h30, c'est 17 et 18 août. Le 17 pour un programme composé de la symphonie numéro 7 de Beethoven et du Requiem de Mozart. Le 18, toute la soirée est dédiée au seul Beethoven, dont nous allons entendre la symphonie numéro 3, dite héroïque, et le concerto pour piano numéro 5, appelé aussi l'Empereur, ce dernier étant donné avec le pianiste russe Alexei Volodin. Bonjour Victor-Julien Laferrière, et merci d'avoir accepté cet entretien avant ces deux concerts de gala, on peut le dire, hein, tellement les programmes sont alléchants.
Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
C'est un retour à Rocamadour pour vous et votre orchestre, puisque vous avez participé au précédent festival en 2024, et c'était déjà pour deux concerts dans la vallée de l'Alzou, au pied de la cité illuminée. Quel souvenir vous gardez de ces deux soirées ?
C'est si particulier. J'aimerais que tous vos auditeurs puissent avoir l'image de ce chant, puisque ce n'est rien d'autre qu'un chant au fond de la vallée, dans lequel on installe une immense scène placée de telle manière qu'on puisse avoir, lorsqu'on assiste au concert, une vue imprenable sur le magnifique site de Rocamadour, illuminé de nuit, comme beaucoup des auditeurs le savent évidemment, et donc ce qui donne une atmosphère très très particulière à ces soirées. Donc l'année dernière, nous avions déjà eu le grand bonheur de découvrir ça, et donc là, de venir en ayant déjà en tête ce que nous allons retrouver, c'est une saveur très particulière.
Ah, il faut rappeler que le premier concert que vous aviez donné, c'était le concert d'ouverture d'ailleurs, c'était avec Roberto Alagnaire devant 2000 personnes. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec Consuelo de vous produire devant 2000 personnes dans ce site que vous venez de décrire, extraordinaire et quasi unique en France, je pense.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive. En plus de collaborer avec Roberto Alagnaire, légende vivante évidemment, qui est dans une forme encore exceptionnelle vocalement. C'était aussi un très grand moment avec ce programme, comme on pourrait dire, ce vrai récital de chant, ce tour de chant très complet où on a pu l'accompagner dans certains des plus beaux airs de son répertoire, entrecoupé de pièces orchestrales avant le lendemain de donner notre propre récital à nous, à savoir deux symphonies de Beethoven dans le même concert.
Et c'était la 5 et la 6. Donc la 5, la fameuse symphonie dite du destin, et puis la 6, la pastorale, qui prenait tout son sens dans ce cadre champêtre. Là aussi, quel souvenir vous gardez d'avoir pu donner ces deux œuvres qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur? Je crois même que la 6 est sans doute votre symphonie préférée.
C'est exactement ça. Je sens que nous avions échangé après le concert. Vous aviez probablement recueilli mes impressions à chaud.
Je confirme.
Et c'est exactement ça. Déjà, il y avait deux choses qui me plaisaient particulièrement. C'était de donner ces deux symphonies l'une après l'autre, notamment parce qu'elles ont été composées pratiquement en même temps, parce qu'on peut imaginer qu'elles forment presque un diptyque. Et elles ont été créées le même soir à Vienne. Je pense que c'est en 1805, mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, ce sont deux symphonies intimement liées et qui sont totalement opposées d'une certaine manière. La numéro 5, passée évidemment à la postérité plus qu'aucune autre, qui elle est une sorte d'aboutissement de toute cette veine presque de musique inspirée beaucoup par la société militaire de l'époque, pour faire très très court. Et ensuite, nous avons la numéro 6 qui, elle, n'a quasiment que peu de précédents. C'est presque une inspiration totalement pure et elle préfigure, elle, l'essentiel du 19e siècle musical. Donc c'est absolument fascinant dans les deux cas et de les opposer l'une à l'autre. Ça m'a laissé de très beaux souvenirs musicaux.
Je rappelle que vous êtes l'un des violoncellistes français les plus réputés et les plus demandés du moment. Mais vous vous êtes donc mis à la direction en fondant cet orchestre, l'orchestre Consuelo, en 2021. Est-ce que c'était un désir ancien chez vous de diriger et d'avoir votre propre formation, votre propre orchestre ?
Je dois répondre par l'affirmative aux deux questions. C'est-à-dire que la direction d'orchestre a sans doute été ma première, dans l'ordre chronologique, ma première passion musicale consciente, on va dire. Très très jeune, c'était vraiment une sorte d'obsession pratiquement que j'avais encore tout à fait enfant, alors que je commençais le violoncelle. Et ça m'est resté assez longtemps, jusqu'à assez avancé dans l'adolescence. Je pensais vraiment me diriger vers ça. à coup sûr. Et puis, je suis tombé entre-temps amoureux du violoncelle, qui a un petit peu peut-être retardé ou comment pourrait-on dire, allongé en tout cas le temps de gestation de cette passion, on va dire. Et c'est seulement il y a 6 ou 7 ans maintenant que j'ai pris la décision de vraiment consacrer une grande part de mon activité à la direction d'orchestre.
Pour un autre rappel, d'où sont issus les musiciens qui constituent l'orchestre Consuelo?
Alors, ce sont la plupart ce qu'on appelle des freelances, pas forcément attachés à de grandes institutions, même si nous avons quand même un pourcentage aussi relativement élevé de membres de grandes phalanges françaises ou même européennes, certainement à la recherche de variétés dans leur activité musicale, lorsqu'ils viennent de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou du Capitole, par exemple. Ils sont dans ces vénérables maisons extraordinaires, mais qui voient tout en grand d'une certaine manière. Et donc, peut-être de venir dans une ambiance relativement différente, dans un orchestre à la taille évidemment plus réduite, sans tradition, sans aucune, certaine manière, lourdeur même, d'aucune sorte, certainement avec une forme de fragilité, mais de laquelle j'espère beaucoup de beauté se dégage, en tout cas on y travaille. En tout cas, c'est ce que je pense qu'ils viennent chercher. Donc on a aussi beaucoup de ces musiciens issus de ces grandes phalanges, et beaucoup de chambristes. On a des membres de quatuors à cordes, de quintettes à vent, de trio avec piano, sans les pianistes. Voilà, ce sont, dirons-nous, ces trois profils qui cohabitent.
Voilà, et l'effectif total, ou en tout cas le noyau dur de l'orchestre, c'est quoi? C'est entre 30 et 40 musiciens?
Oui, disons qu'on n'a aucune obligation, mais que la plupart des projets, en effet, c'est un petit peu plus. Nous sommes entre 40 et 60 musiciens, la plupart du temps.
Concernant la discographie de l'orchestre Consuelo, il y a déjà eu un premier enregistrement début 2023 avec le CD Sérénade de Brahms, paru sous le label Mirare. Et puis vous avez lancé le projet d'enregistrer l'intégrale des 9 symphonies de Beethoven, qui s'est concrétisé l'an passé par la parution d'un premier volume regroupant les symphonies numéro 1, numéro 2 et numéro 4. Le deuxième CD va paraître dans les jours qui viennent, d'ici la fin du mois d'août. Quelle symphonie trouve-t-on dessus cette fois-ci?
Alors cette fois-ci, nous aurons la numéro 5 et la numéro 6 que nous avons déjà mentionnées, et elles sont associées à la numéro 8, qui est peut-être l'une des deux, trois symphonies les moins connues de tout le cycle, mais qui est assez fascinante. On a retenu le mot de Richard Wagner au sujet de la numéro 7, à savoir que c'était l'apothéose de la danse, et je trouve que la huitième pourrait tout à fait être décrite de la même manière. C'est une sorte de danse endiablée, au moins dans 3 mouvements sur 4, en fait, avec un deuxième mouvement plein d'humour, pas de mouvement lent, ce qui donne une verve assez extraordinaire à cette huitième symphonie, mal aimée ou trop peu programmée.
Nous allons nous plonger avec vous dans les programmes des concerts des 17 et 18 août, mais auparavant, je propose d'écouter une première fois l'orchestre Consuelo dans cette émission avec cet extrait de votre premier CD Beethoven. Il s'agit du troisième mouvement Scherzo Allegro de la symphonie numéro 2. Troisième mouvement, Scherzo Allegro de la symphonie numéro 2 de Beethoven, un extrait du premier CD de l'intégrale des symphonies enregistré par l'orchestre Consuelo sous la direction de Victor-Julien Laferrière. Donc parution ces jours-ci, dans une semaine à peu près, du deuxième volume avec les symphonies numéro 5, numéro 6 et numéro 8. Le troisième devrait paraître dans un an, en août 2026, Victor ?
C'est exactement ça. Nous allons les enregistrer à la fin du mois d'août de cette année. Et donc, elles sortiront dans un an.
Et ce seront la 3 et la 7, hein, a priori ?
Exactement, la 3 et la 7. Il ne nous restera plus que la 9e à enregistrer. Et ça aura lieu en 2027, à l'occasion du bicentenaire de la mort du compositeur.
Eh bien, nous en venons maintenant au programme des deux concerts dans la vallée de l'Alzou. C'est 17 et 18 août à 20h30. Pour le premier, il y a donc la 7e symphonie de Beethoven au programme, ainsi que le Requiem de Mozart. Autant dire que c'est très consistant pour vous et vos musiciens. Le Requiem, avec quel chœur allez-vous le donner et avec quel chanteur soliste si vous avez les noms en tête ?
Alors nous allons donner le Requiem de Mozart avec le chœur Orpheon de Saint-Sébastien. J'ai très hâte de collaborer avec eux parce que ça fait des années que j'entends parler de ce chœur. C'est un chœur amateur en très grand nombre. Ils sont en général plus d'une cinquantaine de membres et ça peut monter jusqu'à 80. Et ils sont connus dans toute l'Europe pour leur qualité évidente.
On les connaît bien, oui, à Toulouse notamment, puisqu'ils se sont souvent produits aux côtés de l'Orchestre National du Capitole. Ils étaient à Rocamadour il y a 2 ans pour un Requiem de Verdi. Et donc, effectivement, je confirme qu'Orpheon Donostiarra, c'est vraiment un des tout meilleurs chœurs qu'on voit régulièrement à Toulouse et dans la région. Et ils sont basés au Pays Basque espagnol. Les solistes, alors moi, j'ai les noms sous les yeux, en espérant qu'il n'y aura pas de changement. A priori, il n'y en a pas. Donc, il y aura Laurane Oliva en soprano, Paul Figuier, contre-ténor, Enguerrand de Huys en ténor et Nicolas Breumans en basse. Le Requiem, est-ce que vous l'avez déjà dirigé ?
Mais oui, j'avais dirigé déjà mon premier Requiem de Mozart, déjà avec l'Orchestre Consuelo. C'était à Versailles, il y a 3 ans, je dirais, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et nous avons repris cette œuvre-là il y a quelques semaines avec l'orchestre, avec un autre chœur d'une taille totalement différente de celui que nous aurons à Rocamadour. En l'occurrence, c'était avec moins d'une vingtaine de chanteurs. Donc en effet, nous avons déjà un petit peu d'expérience avec cette œuvre mythique, mystique, mythique, tout ce que vous voulez.
Un mot sur la 7e de Beethoven. Vous en avez parlé il y a quelques minutes en rappelant le fameux mot de Wagner, c'est l'apothéose de la danse. Quelle place tient-elle dans votre petit panthéon beethovenien ?
Alors c'est assez étonnant, parce que je pense que là on est vraiment dans le cas d'une symphonie populaire. Je pense que la plupart de vos auditeurs connaissent la 7e symphonie, pas forcément consciemment. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de cette symphonie qu'on a entendue à plein d'occasions dans beaucoup de films, dans beaucoup de reprises même. Je pense qu'il y en a aussi dans de la pop, il y a eu malheureusement une récupération politique il y a peu aussi, dans un clip de campagne je crois, à l'occasion d'une campagne des européennes, il me semble. Donc c'est une symphonie qu'on connaît tous et j'ai pu le mesurer moi à titre personnel. C'est-à-dire que quand je me suis attelé à proprement parler à cette symphonie-là, je me suis aperçu à quel point elle était ancrée dans mon corps, elle était ancrée dans mon esprit, dans ma mémoire. C'est l'une des premières, c'est probablement la première que j'ai jouée aussi au sein de l'orchestre, avec l'orchestre de mon conservatoire quand j'avais 13 ans, je pense. Donc voilà, c'est surtout cette impression de grande, grande familiarité avec cette œuvre-là. Et d'une certaine manière, c'est trompeur, puisque c'est évidemment un chef-d'œuvre unique. Ça donne une impression de proximité, ou de mon point de vue, dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. C'est cette impression que, comme si c'était un tout petit peu moins sacré, parce qu'on avait toujours grandi avec.
Et puis le lendemain, toujours à 20h30 dans la vallée de l'Alzou, concert entièrement dédié à Beethoven cette fois-ci, avec la troisième symphonie, l'Héroïque, et le cinquième concerto pour piano qu'on appelle aussi l'Empereur, pour lequel vous allez accompagner le pianiste russe Alexei Volodine. Est-ce qu'il s'agit d'une première pour vous et l'orchestre Consuelo dans un concerto pour piano de Beethoven? Je ne crois pas.
Alors non, nous avons déjà, parallèlement aux symphonies que nous abordions, déjà accompagné pas mal de pianistes dans des concertos de Beethoven, mais jamais Alexei Volodine. Donc là, ce sera surtout une très grande première de collaborer avec cet incroyable pianiste. Vraiment, j'ai très très hâte de m'atteler à cette tâche avec lui. Et le concerto de l'Empereur est assez idéal pour ça, parce qu'il y a ce rapport unique entre le soliste et l'orchestre. Là aussi, Beethoven à quelques décennies d'avance, à minima, lorsqu'il imagine ce rapport comme ça d'égal à égal, alors que si on s'imagine les pianos dont il disposait à l'époque, il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer que ça puisse être un rapport un tout petit peu équilibré entre le piano soliste et l'orchestre. Mais on n'est plus au tout début du 19e siècle, et là, Alexei Volodine bénéficiera d'un grand piano, d'un grand queue, et qui certainement ne sera pas trop pour ce concerto faramineux.
L'Héroïque, cette troisième symphonie, c'est un gros morceau qui marque un tournant dans l'œuvre symphonique, en tout cas de Beethoven. C'est le moment où il s'émancipe complètement de Haydn et Mozart. Alors je vous ai posé la question pour la septième, mais la troisième, j'imagine aussi que vous la mettez très haut parmi les neuf qu'il a composées.
Ah oui, l'un des bonheurs de se lancer dans ce cycle, justement, c'est de pouvoir faire des correspondances entre les symphonies, de pouvoir suivre une certaine chronologie. C'est pas une chronologie parfaite, mais de se rendre compte, en tout cas, de la chronologie de l'écriture. Et donc, cette troisième qui sort totalement, en termes de dimension, déjà, c'est la deuxième la plus longue, je pense, ou presque à égalité avec la pastorale, en tout cas elle est parmi les plus longues des symphonies. On connaît l'histoire aussi de cette symphonie, où il avait certainement en tête une symphonie en hommage à Bonaparte, et qui, lorsqu'il s'est couronné empereur, a profondément déçu Beethoven, qui lui a ensuite retiré la dédicace. Certainement, cette inspiration explique le souffle épique de cette symphonie, où Beethoven fait notamment appel à un procédé qui est la fugue, procédé ancestral évidemment d'écriture, mais qui ici, dans ce contexte symphonique-là, donne un souffle absolument extraordinaire à cette symphonie.
Est-ce qu'elle est particulièrement difficile pour l'orchestre et ses musiciens, a fortiori pour le chef? En tout cas, sur quoi allez-vous mettre l'accent?
Elle est redoutablement difficile pour tous les acteurs présents dans cette symphonie. Pour plein de raisons, les fugues déjà sont très virtuoses, et comme elles arrivent souvent comme une manière d'augmenter l'intensité qui était déjà maximale à première vue, comment faire en sorte, quand on est déjà au maximum de l'intensité, d'augmenter le curseur encore un tout petit peu? C'est là que Beethoven sort ce principe de la fugue. Alors si une fugue, lorsque c'est un pianiste par exemple qui joue toutes les voix et qui peut donc réunir le centre de commandement dans sa propre personne, c'est une chose, mais lorsqu'on doit faire cela à l'échelle d'un orchestre, avec des gens qui jouent à parfois éloignés de 20 mètres les uns des autres, qui jouent tous en même temps très fort, c'est une gageure assez absolument incroyable, et c'est d'une grande virtuosité orchestrale en fait.
Les symphonies numéro 3 et numéro 7 n'ayant pas encore été enregistrées par Consuelo, je ne peux pas vous en faire écouter un extrait dans une version de cet orchestre. Je peux en revanche vous faire entendre un extrait de la symphonie numéro 4, c'est le troisième mouvement, Allegro vivace.
Thank you.
Le troisième mouvement Allegro Vivace de la symphonie numéro 4 de Beethoven, dans la version enregistrée par l'orchestre Consuelo dirigé par Victor-Julien Laferrière, un extrait du CD paru l'an dernier sous le label Mirare. Avant de conclure cet entretien, Victor-Julien Laferrière, je voulais que vous nous disiez quelques mots sur le Festival du Comminges, dont vous êtes le directeur artistique depuis 2022. Et oui, vous avez beaucoup de casquettes, il a lieu en ce moment, le concert de clôture étant programmé le 30 août. Donc il reste quelques concerts. C'est un des grands festivals de musique classique de notre région et c'est l'un des plus anciens puisque vous fêtez cette année le 50e anniversaire de sa création. Il n'y en a pas tant que ça des festivals qui atteignent le demi-siècle d'existence, dites donc.
Absolument. Alors en plus, nous avons l'avant-dernier concert qui se passera d'ici quelques jours. Ce sera l'ensemble vocal Dulci Jubilo. Basé à Montauban et qui sera en compagnie de Thomas Hospital à l'orgue, puisque c'est un festival qui a été créé autour de l'orgue avec le souci de mettre en valeur des instruments absolument exceptionnels présents sur le territoire et notamment celui de la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand de Comminges, bien connu des organistes. Et donc nous avons le plaisir chaque année de faire vivre cet instrument sous plusieurs formes, soit sous forme de récital, soit avec des ensembles vocaux ou encore diverses ensembles instrumentaux. Et c'est un festival qui a aussi une grande tradition de musique vocale, de musique baroque également et de musique de chambre. Donc nous essayons de maintenir toute cette continuité et toutes ces traditions-là, tout en évidemment en innovant auprès de nombreux nouveaux publics. Nous avons notamment lancé le concept de générale ouverte à tous et à tous les publics, gratuitement évidemment, où par exemple une famille ne pouvant pas forcément venir avec des enfants en bas âge le soir, mais souhaitant leur faire découvrir la musique, par exemple, peut venir le temps qu'ils souhaitent pendant la générale sur le lieu du concert du soir. Et c'est aussi une manière d'aller auprès de plein de nouveaux publics. Nous nous déplaçons dans les EHPAD également. Donc voilà, c'est un festival ancien qui, j'espère, commande un certain respect par sa longévité, mais qui continue d'innover et d'être résolument la tête tournée vers l'avenir.
Et concernant le concert du 20 août que vous évoquiez à l'instant, il a lieu à la cathédrale Sainte-Marie, à Saint-Bertrand-de-Comminges, et le chœur Dulci Jubilo va y donner le Requiem de Forêt, mais dans une version un peu particulière, parce que je crois qu'il y a une transcription à l'orgue réalisée par Thomas Hospital.
Exactement, Thomas Hospital qui est vraiment l'un des très grands organistes actuels, d'ailleurs aussi professeur au Conservatoire National et qui jouit d'une grande carrière internationale. Et donc en effet, s'il y avait un organiste qui pouvait vraiment s'atteler à cette tâche, c'était lui et j'ai très hâte de découvrir cette version.
Concert donné à 20h30 le 20 août en la Basilique Sainte-Marie. À Saint-Bertrand-de-Comminges, merci infiniment Victor-Julien Laferrière d'avoir bien voulu répondre à mes questions lors de cet entretien. Je rappelle que vous dirigez l'orchestre Consuelo lors des concerts de ces 17 et 18 août à 20h30 dans la vallée de l'Alzou, au pied de la cité illuminée. Pour le premier, vous donnez la symphonie numéro 7 de Beethoven et le Requiem de Mozart avec le chœur Orfeon Donostiara. Et pour le second, le programme est entièrement dédié à Beethoven, dont vous allez jouer la symphonie numéro 3, l'Héroïque, et le concerto pour piano numéro 5, l'Empereur, avec le pianiste russe Alexei Volodin. La billetterie est en ligne sur le site www.rockamadourfestival.com. Rendez-vous demain sur Radio Présence à 13h30 pour un entretien avec un autre musicien invité au festival. Très bon après-midi à tous à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.